Alors, comme message aujourd'hui, je voudrais vous lire d'abord dans la première épître de Jean, première épître de Jean au chapitre 4, versets 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en lui, en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans ce texte, quand je l'ai lu dans la semaine, une phrase m'a interpellé particulièrement. C'est le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La phrase comprend deux sections qui nous amènent à deux questions. Comment est-il ? Ou qui est-il? Et comment sommes-nous? Ou qui sommes-nous? Et dans ce paragraphe, nous avons déjà une réponse, puisque au verset 16, il est dit « Dieu est amour ». Et l'apôtre, dans sa lettre, nous le répète plusieurs fois, plusieurs reprises, dans, par exemple, chapitre 4, verset 17, chapitre 4, verset 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et nous voyons verset 17, il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés. Dieu est amour. La conséquence de cet amour de Dieu envers nous, et donc de notre amour reconnaissant envers lui, doit nous conduire vers l'amour de ceux que Dieu a aussi aimés et rachetés, c'est-à-dire nos frères et sœurs dans la foi. C'est très important parce que si cela n'est pas, l'apôtre nous déclare menteur. Notre amour pour les enfants de Dieu est une preuve de notre amour sincère pour notre Dieu. Jean chapitre 5 verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Cela nous renvoie donc au chapitre 4, verset 21, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un commandement qui a été donné par Jésus lui-même. Dans Jean, au chapitre 13, verset 34 à 35, c'est Jésus qui parle. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas seulement d'obéir aux commandements de Dieu, aux lois de Dieu, etc. C'est une question d'amour. Ce n'est pas seulement pratiquer des lois. Hein. Toute la loi, elle est en quelque sorte résumée dans ce commandement que Dieu a donné. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tout est résumé dans cette loi. C'est une question d'amour. Si nous avons reçu l'amour de Dieu pour nous, eh bien, cela doit nous amener obligatoirement vers l'amour de notre prochain et l'amour de nos frères et sœurs. Donc, l'amour qui est manifesté dans l'Église, c'est aussi un signe pour le monde. Cela montre que nous sommes vraiment disciples de Christ. C'est donc très important que les gens qui viennent puissent sentir l'amour, et pas seulement la première fois qu'ils viennent, hein, pas seulement la première fois où ils auraient cette impression que tout le monde s'aime, mais il faut que s'ils restent 2 semaines, 3 semaines, 1 an, ils sentent toujours cet amour entre nous, cet amour les uns pour les autres. C'est le signe que Dieu est en nous et que nous sommes en Dieu. C'est vraiment donc un aspect très important. Dieu est saint. Dieu est amour, mais Dieu est saint. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 6, du verset 1 à 7. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Nous voyons la même scène un petit peu dans l'Apocalypse. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 8, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Nous ne pouvons paraître devant ce Dieu saint qu'en étant complètement purifiés et sanctifié. Et c'est ce qui se passe dans le livre d'Ésaïe, hein, puisque à la fin, il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Parce que quand on se trouve devant ce Dieu saint, on peut ne dire que ce que dit Ésaïe, malheur à moi, malheur à moi. Mais grâce à Dieu, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et ayant été purifié, Dieu a mis en nous son esprit qui est saint, qui a les mêmes caractéristiques que Dieu. Dieu est saint, son esprit est saint. Et l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 3, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes saint. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes comme Dieu, comme le Saint-Esprit, nous sommes saints. Nous sommes le temple du Dieu saint, et cela, bien sûr, doit se voir. Nous devons garder cette sainteté, rester dans la sainteté que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a acquise. Alors, on va dire, ce n'est pas facile dans ce monde. En effet, qu'est-ce qu'il est dit dans Philippiens 2, 14 et 15 ? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est vrai que nous vivons dans une génération corrompue. Et donc nous devons faire attention de ne pas devenir comme cette génération. Nous devons briller comme des flambeaux. Donc nous devons rester dans cette sainteté de Dieu, dans ce caractère de Dieu. Nous devons porter dans ce monde le témoignage de la sainteté de Dieu. Dieu est juste. Dans le psaume 7, nous lisons « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » Oui, Dieu est juste. Ésaïe nous en parle aussi au chapitre 30. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Dieu est un Dieu juste et il rend justice à ceux qui se confient en lui, à ceux qui espèrent en lui. Car beaucoup de personnes dans le monde ne sont pas traitées comme elles devraient être traitées. Elles sont souvent méprisées, elles n'obtiennent pas justice. Mais ceux qui se confient en Dieu obtiendront justice, parce que Dieu est un Dieu juste. Et dans notre façon d'être, nous devons aussi nous-mêmes nous comporter de la même façon, chercher à rendre justice. Ésaïe 45, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Et ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu est juste et donc il aurait toute l'attitude de nous condamner puisque nous sommes pécheurs. Mais en même temps, il a satisfait à sa justice en envoyant son Fils qui est mort pour nous justifier. Et donc, Dieu est à la fois un Dieu juste et en même temps un Dieu qui sauve le pécheur. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Là encore, nous devons nous-mêmes, par nos paroles, par nos actes, par nos prises de position, nous devons manifester aux yeux du monde la justice de Dieu et la justice qu'il a mise en nous. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 10, il nous est dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Toutes les personnes qui nous entourent doivent voir en nous des personnes qui recherchent la justice, qui pratiquent la justice. S'ils voient que l'on est injuste, s'ils voient qu'on n'agit pas dans la justice de Dieu, eh bien, obligatoirement, ils vont dire cela, ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. C'est juste un nom. Donc nous devons vraiment veiller à manifester cette justice de Dieu et à rechercher la justice. Et en fait, c'est une recherche permanente. Nous ne devons pas nous contenter d'exprimer nos idées, nos simples idées à nous. Parce que nous, nous sommes pécheurs. Si nous exprimons nos idées, on risque fort de faire des erreurs. Nous ne devons pas exprimer notre propre jugement, mais nous devons rechercher la pensée de Dieu. Parce que le naturel de l'homme, c'est d'être partial. C'est de rechercher son intérêt. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit son intérêt, chacun a sa façon de voir. Mais ça, ce n'est pas la justice, c'est notre pensée. Si on veut chercher la justice, on doit aussi chercher l'intérêt de l'autre. Et c'est ce que les apôtres nous disent, par exemple, dans 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Dans 1 Corinthiens 13, il est question de l'amour. Hein. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, le chrétien recherche la justice pour lui-même, mais il la recherche aussi pour les autres. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est juste, et on pourrait continuer sur ce que Dieu est. Dieu est lumière, Dieu est bon, il est généreux, Dieu est miséricordieux, il pardonne, etc. Et en pensant à tout cela, il faut penser aussi toujours à ce verset, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cela doit être un sujet de méditation régulier. Et remarquez que le verset ne dit pas « tel nous devrions être », mais bien « tel nous sommes ». Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est une réalité que Dieu nous rend semblables à l'image de son Fils. Il fait de nous ses enfants. 1 Jean 3, 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Nous le sommes, nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu, tels que nous sommes. Il ne s'agit pas de loi. Parce que beaucoup de personnes ramènent tout à la loi et disent ben, il n'est pas écrit ça dans la loi, donc je peux le faire. Il n'est pas. Vous voyez ? Bon, je peux me comporter comme ça parce qu'il n'y a rien dans la loi qui m'interdit de faire ça. Bon, ce n'est pas une question de loi. Il ne faut pas chercher à s'appliquer à faire ça parce que ça serait une loi. Mais je dirais plutôt qu'il s'agit d'un changement de rang, de statut, qui doit donc apparaître de plus en plus aux yeux du monde qui nous entoure. Nous qui étions indignes, il nous rend dignes. Il nous donne la dignité de fils et filles de rois, des princes et des princesses du roi des rois. Un chrétien peut-il être grossier? Un chrétien peut-il être vulgaire? Un chrétien peut-il s'enivrer ? Etc., etc. Ce n'est pas une question de loi. C'est une question de rang. De rang. Nous sommes les enfants de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Est-ce que nous imaginons Jésus parler grossièrement ? Ben non. Donc nous, on ne doit pas parler grossièrement. Est-ce qu'on imagine Jésus ayant un peu trop bu ? Ben non. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Vous comprenez, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de rang. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Il nous a élevés en dignité. Donc nous devons nous comporter dignement, tels que nous sommes. Le Seigneur nous a élevés jusqu'à lui. Hein, il nous a donné sa dignité. Dans les Actes des Apôtres, Luc, à un moment donné, nous parle de populace. Il dit les gens de la populace. Et ce terme m'a souvent interpellé, parce que ça fait un petit peu dédaigneux, ça fait un peu méprisant, vous voyez. Bon, dans certaines versions, il est parlé de la multitude, ou alors dans d'autres passages, cette foule qui ne connaît pas la loi. En fait, de la part de Luc, ce n'est pas de mépris, de la même façon que Jésus ne méprisait personne. Il est venu pour tous, hein, pour les pauvres, pour les riches, pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas une question de mépris. Et de la part de Luc, ce n'était pas une question de mépris quand il parle de populace. Mais je pense que Luc connaît, est conscient de quel est son rang. Il est conscient de la dignité que Dieu lui a donnée. Et nous-mêmes, nous avons un rang à tenir. Quand nous faisons quoi que ce soit que nous fassions, nous devons le faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, comme représentant Dieu sur la terre. Nous sommes, comme l'apôtre Paul dit, des ambassadeurs. Éphésiens 6, versets 19 et 20. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Paul était ambassadeur. Luc était ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes tels que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Et donc, le monde juge de l'Évangile et juge de la parole de Dieu selon ce qu'il voit en nous. Comprenez ? Donc, quand les personnes du dehors nous entendent parler, nous voient agir, nous conduire, peuvent-ils reconnaître en nous les ambassadeurs de Dieu, des enfants de Dieu ? Donc, je vous invite à poursuivre cette méditation, parce que pour ne pas rallonger, j'ai pris que trois aspects de Dieu, hein, mais comme je vous l'ai dit, il y a bien d'autres aspects. Donc, poursuivez cette méditation en pensant toujours à cette phrase « tel il est ». Tels nous sommes aussi dans ce monde. Tout est accompli en Jésus-Christ. Il suffit de laisser l'Esprit-Saint développer toutes ses qualités en nous, alors que le Seigneur nous aide dans ce sens.